Bienvenue dans Mémoire d'ouvrier. Prenez les prochaines minutes pour vous détendre. Déambulez à votre gré sur l'esplanade en vous laissant porter par les mots des anciens travailleurs de la Canadian International Paper. Vous vous trouvez sur le terrain où fut construite la CIP en 1920. Au fil du siècle, elle deviendra une des plus grosses usines de pâte et papier au monde. Pour bien saisir l'ambiance chaleureuse qui régnait, il faut comprendre que ses employés formaient une famille. Littéralement.
Mon grand-père et mon père ont travaillé ici. Puis à l'époque que papa travaillait ici, la CIP embauchait les fils des ouvriers. Alors c'est comme ça que je me suis retrouvé ici, avec mon frère Alain.
Souvent, il y avait le père et le fils qui travaillaient, ou deux frères travaillaient. Il n'y avait pas beaucoup de changements de personnel.
Et on travaillait pratiquement toujours avec les mêmes. Tu sais, quand on était sur des constructions, c'était pratiquement toujours les mêmes mécaniciens, les mêmes ventilateurs, les mêmes soudeurs. Pour ça, on s'était comme un esprit de famille. La CIP, c'était notre deuxième famille. On était ici au moins 8 heures par jour. Et les compagnons de travail, c'était comme nos frères. On se comptait bien des affaires, et puis on se confiait bien des fois à quelqu'un que ça allait bien avec.
Pour plusieurs anciens employés, travailler à la CIP n'était pas seulement un emploi ordinaire. Il s'agissait d'une carrière de choix.
Tous ceux qui travaillaient là, il y avait une fierté de travailler là. Il y avait une fierté, c'était la plus grosse usine au monde, en plus, à ce moment-là. Donc, c'était déjà en partant, on était à la capitale du papier. Puis, il y avait la Voyagamac, la Kruger, il y avait différentes usines là, qui marchaient. Et ça, c'est sûr qu'on était fiers. Là. Quand quelqu'un rentrait là, c'était... On était, wow, c'était quelque chose.
Moi, c'est sûr que la CIP, ce que ça représentait, c'était le moyen par lequel la famille chez nous, on pouvait bien vivre.
Bien, c'était un tremplin, parce qu'avec ça, là, une fois qu'on est rentré dans une usine, un moulin à papier, nos amis nous ont dit « Hey, wow, il est rentré là, lui-là. » Un peu comme aujourd'hui, quelqu'un qui a 40$ de l'heure, et c'est le fun, tu sais. Les autres vont dire « Bien, il est le fun, il a réussi à rentrer là, il a une fierté personnelle. »
Et j'ai vu des gars prendre soin de leurs collègues, prendre soin de la santé puis de la sécurité de leurs collègues. Et c'était de toute beauté en disant « Hop, attends un peu, ici, il faut qu'on mette notre cadenas, il faut qu'on mette un ruban, il faut qu'on fasse ceci. » Tous ces éléments de prévention. Puis j'ai vu des papetiers à côté de leur gros rouleau de papier, en train de tapoter leur papier comme avec une fierté. T'as la grosse machine, t'as là le gros éléphant à côté d'eux autres qui sont tout minuscules à côté de la machine. Puis là, taper comme ça sur leur papier, frapper avec le... Il y avait une espèce de petit bâton de baseball, là. Bien, c'était pas un bâton de baseball, mais ça pouvait ressembler à ça, là, pour voir la densité, là. Et puis, d'aller voir le faire avec fierté, puis arriver, là, tout l'espèce de gros coq, là, tu sais, qui s'en vient toute fière, là, tu sais, en train de se pavaner parce qu'il fait un beau produit.
L'atmosphère de travail, c'est bien le fun. Les gars, même si ça dure, tu sais, c'est le fun. On avait une sorte de camaraderie là-dedans. Surtout, on travaillait sur des chiffres, hein, fait qu'on travaillait souvent avec les mêmes gars. Dans toute l'usine, de 4 à minuit, c'est presque tous les mêmes gars qu'on rencontrait. Fait que tous les gars qu'on se connaissait, puis c'était presque tous des chasseurs, des pêcheurs, des gars de camping, des gars de plein air. Quand tu es enfermé dans une usine, c'est sûr que tes moments de loisir, tu veux passer en dehors des quatre murs. Hein.
À cette époque, la compagnie prenait une part active dans les loisirs de ses employés. Elle organisait donc plusieurs activités de plein air, de sport et de culture.
Le côté social était très fort. Et le côté social, je peux vous dire que ça a commencé en 1925, deux, trois ans après la formation de CIP. C'était le club de golf Métabrutin qui a été fondé. Parce que c'est des Anglais qui jouaient au golf à ce moment-là. Et ils ont fondé le club de golf. Ça a commencé là. Après, bien, il y a eu des ligues de hockey à Trois-Rivières, du Moulin et avec les autres compagnies. Très forte à part de ça. Il y a eu aussi des clubs de balles molles, balles lentes et balles rapides, qui a fonctionné pendant plusieurs années. Il y a eu des ligues de quilles, même qu'il y en avait de nuit pour le chiffre qui finissait de 4 à minuit, des gars allaient jouer aux quilles. Ensuite, il y a eu le curling qui était aussi très fort. Ils ont fondé le CANIPCO, l'association CANIPCO, qui était l'association récréative des employés de CIP, avec un beau chalet sur l'île Saint-Quentin à côté du club de golf. Il y avait un terrain là, avec piscine pour grandes personnes, barboteuse pour les enfants, cordée de sable, balançoire, toute l'équipe pour faire des beaux pique-niques. Alors, il y a ce chalet aussi qui avait une grande salle, c'était la danse du samedi soir. C'était des danses mémorables à Trois-Rivières. Tout le monde de cette époque-là est venu danser au club CANIPCO.
On avait un club de chasse et de pêche, le club Coucou, dans le bout du lac Aquette, à Saint-Raymond, je pense, dans ce coin-là. Là. Ça, c'était un club privé de CIP, ça, dans le temps, c'était un gros club. Il mettait autour de 60 000 alevins de truites dans les lacs. Des truites d'à peu près, ils les élevaient à l'usine. Il y avait une place, là, il y avait des bassins, là, puis ils élevaient les truites, puis il y avait quelqu'un qui était assigné à ça.
Je me souviens qu'à Noël, on a des enfants de 0 à 12 ans avaient des cadeaux à toutes les Noëls. C'était des cadeaux assez gros. Ça serait comme aujourd'hui, ça serait des cadeaux d'une valeur de 125 $ certains aujourd'hui. Est-ce que des cadeaux étaient gros dans ce temps-là? Alors, je me souviens qu'une année, j'ai eu un jeu de Monopoly. C'était immense, là. C'était gros, ça. Je me souviens toujours de ce jeu-là. Il devait avoir 10-11 ans. Je me souviens d'un hockey. Je me souviens de patins. C'était quand même assez gros. On avait ça jusqu'à 12 ans.
On ne peut pas parler de l'ambiance à l'intérieur de l'usine sans parler des tours qui s'y sont joués. Le côté farceur des employés et de leurs familles fait partie de la vie de tous les jours à la CIP. L'histoire que vous vous apprêtez à entendre est d'ailleurs narrée par un ancien ouvrier et son fils qui travaillaient ensemble à l'usine.
À tous les jours, j'emmenais mon linge sale à la maison et puis ma femme le levait le soir et le ramenait le lendemain matin. Des fois, elle m'envoie des petits tours.
Maman travaillait dans une buanderie et quand papa arrivait le soir avec son linge avec lequel il avait travaillé toute la journée, bien, plutôt que de partir une brossée de lavage à la maison, maman apportait ce linge-là à la buanderie et là, elle disait au pressier, ça lui arrivait de dire au pressier, tu vas me le presser. Son linge de travail, tu vas le presser bien comme il faut. Tu sais, comme du linge de jeune mariée, là, bien drouette, là, tout bien pressé, bien empesé. Bon, c'est le mot que je cherchais. Tout bien empesé. Fait que quand papa arrivait à l'usine le matin, puis que maman, il avait joué ce tour-là, là, il avait ça, un pantalon tout avec un beau pli sur le devant, puis, tu sais, pas frippé de nulle part, puis bien empesé, bien droit à voir. Puis là,
des gars, quand en empesant ma chemise, ben là, je disais, tiens, encore, Baudouin, il arrive avec, bien fier avec son collet de chemise bien empesé. c'était le fun.
D'autres fois, maman a déjà cousu le bas de pantalon de papa. Fait qu'il est à sa case, en train de vouloir mettre son linge de travail. Puis là, il vient pour mettre ses jambes dans le pantalon, puis maman avait cousu ça. Fait que là, puis le patois papa, c'est bataille. Fait que là, je l'entends dire bataille, puis là, sortir, rire comme un bon, les autres rire de la situation, puis là, sortir son couteau, puis là, défaire la couture que maman avait faite là-dedans.
Je vois des petits tours de même, et puis là, c'était bien le fun.
Plusieurs employés habitaient à quelques pas de l'usine, dans les rues du quartier Sainte-Cécile. Parmi eux, certains chanceux avaient même le droit à un repas bien chaud quand venait l'heure du dîner.
Nous autres, on restait sur la rue Saint-Angèle, qui est pas loin d'ici. Mon souvenir, c'est que, justement, il fallait que je vienne porter le lunch à mon père. Et puis, dans ce temps-là, bien, c'était le fameux tunnel qu'il y avait là, à partir de la rue Hertel là, pour aller. Fait que quand ma mère elle me disait, bien là, faut que tu ailles porter le lunch à ton père. J'aimais pas trop ça. Je devais avoir à peu près 8 ans. Parce que cette histoire de passer dans ce fameux tunnel-là, je courais. Je courais pour m'en aller le plus vite possible pour, après ça, remonter les marches pour aller lui porter ça. Là, il y avait comme un genre de petite cantine. Là, et puis...
là ma mère, il préparait un sac de voyage tout chaud, à commencer par la soupe. Les patates, la viande, le dessert. Là, je l'attendais, parce que j'arrivais toujours quelques minutes avant. J'attendais son apron avant qu'il arrive, là. Et puis, là, ben, j'y sortais au fur et à mesure, là, tu sais, à commencer par la soupe, et ainsi de suite. Et puis là, ben, quand il avait fini de dîner, ben, je ramassais tout, et puis je m'en retournais à la maison. Après ça, ben, il était encore là pour le souper. Je repartais, j'allais y porter le souper chaud.
Lorsqu'on accueillait un nouvel employé à la CIP, on le faisait travailler une semaine dans chacun des départements. Pourquoi?
Tout le monde faisait ça. Après ça, quand quelqu'un disait, il parlait des meules, bien, la personne savait exactement qu'est-ce que c'était. L'autre, il parlait de la cour, de cordage. Le gars savait exactement c'était quoi, parce qu'il l'avait fait pendant au moins une semaine. Il a fait de la base une semaine, il avait porté de l'eau une semaine, il avait tout fait ces choses-là. Donc, c'était intéressant pour ça. Puis que les gars savaient quoi. Puis quand ils nous envoyaient dans l'usine, bien, on savait où aller, où pas aller. Tu sais, alors, moi, je voudrais pas aller dans tel département. Quand ils nous demandaient, il y a une ouverture à telle place, bien, moi, j'aimerais mieux, je passe mon tour. Je connais ça, puis je veux pas y aller. Tu sais, c'est ça qui était le fun aussi.
À l'époque de la CIP, la population québécoise est encore très religieuse. Voyons voir comment cela se conjuguait avec le travail à l'usine.
Le dimanche, là, on se rapporte dans le temps de Maurice Duplessis et de l'Église de ce temps-là, que le dimanche était consacré au Seigneur. Alors, les machines arrêtaient le samedi soir et ils repartaient le dimanche au soir.
Mais samedi soir, mais lui, ça prenait des hommes dans l'usine pour nettoyer les machines, faire le ménage, puis faire de la réparation, de la maintenance. On entrait, on finissait à 8 heures, on était payé 8 heures. La compagnie nous donnait la permission de terminer notre travail à 7h30, on allait prendre notre douche, on sortait, puis ça nous donnait la chance d'aller à la messe. Tout le monde allait à la messe dans ce temps-là. La compagnie nous payait une demi-heure pour aller à la messe.
À la messe du dimanche matin, dans l'église Saint-Cécile à Trois-Rivières, il y avait beaucoup d'employés qui étaient assis là à la messe de bonne heure le matin, puis qui cognaient des clous. Après ça, la compagnie a demandé que ça n'avait plus de bon sens. Ça coûtait trop cher de faire des arrêts comme ça. Ils ont décidé, la loi a été changée aussi au Québec pour qu'enfin ils puissent continuer la production le dimanche, sans arrêt.
Borealis possède une grande collection de témoignages d'anciens employés. Ceux-ci contiennent d'ailleurs certaines anecdotes qui ressortent du lot. Elles témoignent d'ailleurs d'un passé pas si lointain et pourtant très différent de notre réalité d'aujourd'hui.
Vous voulez voir l'anecdote? Il y avait même un cheval qui était payé. il y avait du brinti qui sortait des machines, là. Et puis il faut la traîner, ça. Fait que c'était un cheval qui venait. Le monsieur qui avait le cheval, il n'était pas payé. C'était le cheval qui était payé. Il fallait le faire.
Mais on avait des douches, un bon système de douches. 300-400 personnes pouvaient finir en même temps, prendre deux douches, c'était pas long. Là. On en avait en masse. Puis, on ne s'essuyait pas avec des serviettes. On s'essuyait avec du papier, au journal. Des rouleaux qui coupaient à peu près large comme ça, là, à peu près 15 pouces. Ça craquait ça. Après un tuyau, deux bords, puis tu déroules ça, puis tu essuies complètement. Ensuite, tu jettes ton papier à terre ou dans un drame, puis là, il y a un gars qui fait le ménage, après, il ramasse ça, on brûle de ça. Ça, c'est unique quand tu rentres d'une douche, d'usine de papier.
La CIP éprouve plusieurs difficultés au cours des années 1990. Malgré les plans de relance et les rachats, l'aventure de cette usine à papier, jadis une des plus prospères au monde, s'achève définitivement en 2000. Des milliers d'employés y ont passé toute leur vie. Et même si l'usine n'est plus là aujourd'hui, ils se souviennent toujours avec nostalgie du temps passé dans ses murs.
Mon père m'avait dit ça quand il m'a fait rentrer ici. Il a dit, petit gars, il a dit, tu rentres là, si tu fais comme du monde, tu vas être là pour ta vie. J'ai gagné des bons salaires, j'ai élevé ma famille, et je suis content du temps que j'ai été ici, puis de l'ouvrage que j'ai fait. On travaillait des fois dans la grosse chaleur ou dans l'huile ou dans la saleté. Mais quand on recevait le chèque de paye, bien, l'argent était net.
J'en éprouve toujours encore aujourd'hui une fierté d'avoir été dans les lieux même où papa travaillait et d'avoir participé comme ça, d'avoir vu papa de l'intérieur de l'usine, de l'intérieur de ce deuxième milieu. On le voyait dans la maison, mais de pouvoir le voir ensuite à l'intérieur de l'usine, aux cases, en train de mettre notre linge là, au dîner, de le voir couché sur le banc, en train de ronfler parce que papa... Il se couchait après le dîner sur les bancs, puis là, il ronflait là. Puis de voir ces liens-là avec les uns et les autres, ça, j'ai aimé ça, voir ça.
Vous venez d'entendre les mémoires d'ouvriers sur le chiffre de jour. Si ceux-ci ont piqué votre curiosité, je vous invite à télécharger ceux du chiffre de nuit, dans lesquels on passe en revue plusieurs anecdotes survenues durant les nuits de la CIP, et où on découvre plusieurs tours qui s'y sont joués entre employés.